Les Pontois parlent à Radio Pont. Les Pontois parlent à Radio Pont. Ben en fait, Radio Pont vous appelle.
Eh bien bonjour à tous les auditeurs de Radio Pont. Qu'on poursuit notre série d'interviews de Pontois, d'amis de la radio, de voix qu'on entend régulièrement à la radio, pour se poser des questions un peu sur l'état de Pont, des Pontois, des habitants, des gens en général, avec cette période un peu trouble, on va dire. Et là, moi, j'ai le plaisir d'avoir Christophe Pélissère au téléphone. Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Ça me fait plaisir de t'avoir parce que les cafés philo nous manquent. Je le rappelle à nos auditeurs, c'est toi qui anime en grande partie les cafés philo pontois. Et évidemment, c'était intéressant d'avoir ta perception, ta vision de cette situation-là qui dure depuis maintenant plus d'un mois, 6 semaines, bientôt 7. Comment toi ça va ?
Oui. Alors, bien sûr, je voulais parler de ces fameux cafés philo, le second vendredi du mois,
oui,
qui évidemment ont été suspendus.
Oui.
Alors, ce qu'il y a eu d'amusant, c'est que nous avons fait finalement le dernier repas, parce que ça avait été reporté à cause de la Saint-Valentin,
mmh,
et donc on l'avait fait le 13, et on avait fait un repas où moi j'avais dit à tout le monde d'être là, donc on était 24 par là chez aux Français,
mmh,
et c'est le lendemain après ce repas un peu historique qu'ils ont tout fermé.
Ah oui.
Et je me souviens, le soir, on avait même plaisanté en disant c'est peut-être la dernière fois qu'on se réunit. Et on était à mille lieues de croire qu'effectivement, après, ce fut ce confinement. Voilà,
cette décision-là. Et toi, donc,
oui,
est-ce que ça t'a impacté personnellement ? Comment ça a joué dans tes habitudes, dans tes routines ?
Bien oui. Alors disons que je me suis reconcentré sur ma vie familiale déjà, et puis surtout pour ce qui est de la philosophie, j'ai correspondu alors par des sites, et je me suis intéressé, figure-toi, à la physique quantique.
Oh,
j'ai écouté beaucoup d'émissions de Big Ball sur la physique et l'espace. Je me suis un petit peu posé toutes ces questions-là, et aussi sur ce fameux virus, parce que ça pose un problème qui est même philosophique. Tu sais que, si j'ai bien compris, c'est quand même une cellule, ou du moins certains disent que c'est une cellule incomplète, qui va investir une autre cellule, s'installer à l'intérieur et prendre les commandes de tout ce qui est, oui, génétique, la théologie, elle va se multiplier par elle-même avec pas d'autre but que de se multiplier. Et il paraît que c'est ce virus qui est à l'origine de la vie, en permettant, parce qu'il y en a des milliards, toutes les mutations génétiques qui ont donné lieu à l'évolution du vivant. C'est quand même assez vertigineux de penser à ça. Alors évidemment, ce virus-là, il a réussi. Normalement, il ne veut pas tous nous tuer, puisque son but, c'est de se propager. Si on regardait ça à une autre échelle, on pourrait dire que c'est une réussite, parce qu'il ne nous tue pas tous. Mais
c'est
voilà.
Ça, il en garde
surtout. C'est autre chose que la vie biologique, voilà. Oui.
C'est vrai que les bactéries et les virus sont à nos origines, hein, d'une certaine manière. J'ai lu quelque part un truc qui m'a fait penser à Camus et à la peste.
Ah oui, bien
est-ce
sûr.
Que tu vois, t'as fait des liens et j'avais lu une petite phrase qui disait la seule façon de mettre des gens ensemble, c'est de leur renvoyer la peste. Est-ce que ça te semble quelque chose de pertinent?
Mettre ensemble, oui, mais ce que Camus examine dans La Peste, hein, c'est les différentes attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce mal, évidemment, pas associé à La Fontaine. Hein.
Mmh.
C'est-à-dire, il faut qu'on trouve souvent des boucs émissaires, et je sais pas, on les met ensemble, les gens, mais tu remarqueras que ça change pas grand-chose à l'ordre social. Nous encore, on a hérité, évidemment, de la résistance et puis de l'après-guerre, un système social qui est à peu près égal pour tout le monde. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'à travers le monde, le traitement, on va dire, social, les conséquences sociales et humaines de ce virus ne sont pas les mêmes.
Ah oui, oui, tout à fait.
Et c'est ça qui est quand même assez...
Ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, d'ailleurs. Hein. Ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, il y a des attitudes qui sont complètement différentes.
Oui, oui.
Alors à l'échelle mondiale, d'autant plus.
Et ça n'est pas le même non plus selon l'habitat, selon les communes. Parce que regarde, dans les cités où ils n'ont pas de jardin, bon, le téléphone, quand même, beaucoup d'ados ont ça, ils peuvent communiquer, mais ils décrochent assez facilement. Donc, moi, je pense que ça, au lieu de créer malheureusement un élan de solidarité dans d'autres coins de la société, ça les aggrave. Peut-être pas nous, dans les communes rurales, c'est différent. Je vois là, les pontois en ce moment, ils sortent pas mal, ils saluent, ils savent qu'il n'y a pas trop de cas chez nous. Donc voilà, il y a on s'habitue à cette espèce de peur, et je crois qu'on n'a plus peur trop. Alors voilà, la peur est le début de la sagesse quand même. Voilà ce que je constate à fond, oui.
Dans les autres questions que j'avais, j'avais quelque chose par rapport à la notion de crise, et j'ai entendu des choses par rapport à la notion de crise, le terme de crise et le terme de catastrophe, et la comparaison qu'il pouvait y avoir entre ces deux termes-là sur un aspect plutôt temporaire d'une crise, où en général, effectivement, on revient, c'est passager, quoi. Alors que la catastrophe a quelque chose d'assez irréversible ou d'assez irrémédiable.
Tu vois, justement, on avait fait un café philo, je ne sais pas si tu te le rappelles, parce que c'était aussi, il y avait dans Sud-Ouest, tu sais, on avait montré...
Sur l'effondrement.
Justement, on avait fait l'effondrement, et certains pensent qu'il y a des crises, mais c'est un effondrement en mosaïque par crise successive. Alors, je ne sais pas si les gens ont cette vision, mais j'ai l'impression que tout va repartir comme avant, parce que les pontois, eh bien, ils vont acheter des barbecues, alors, soit on va avoir les années folles, comme une entre-deux-guerres, une entre-deux-crise, où les gens vont sûrement profiter de la vie, ouvrir le champagne, voilà, parce qu'ils ont été frustrés dans leur mode de vie, soit, c'est effectivement un soubresaut qui peut nous entraîner, disent les survivalistes, les millénaristes, etc., une forme d'effondrement. Alors moi, je ne sais pas trop qu'en penser, mais je crois que beaucoup de j'ai vu là des pontois, tout le monde, comme tous les Français, on se dit, faut relocaliser, faut reproduire, faut avoir une souveraineté, parce que c'est pas normal que des pans entiers de l'industrie qui finalement sont importants, notre survie, on soit obligé de passer par l'Inde, par la Chine, pour le curare. Tout le monde est au courant, et j'ai l'occasion, lors de mes promenades, de rencontrer des gens qui disent tous il faut arrêter ça. Voilà ce que j'ai. Donc, je crois que l'impact positif va, je pense, être cette relocalisation. Et je vois les gens même, ils vont chez le boucher, ils disent tiens, voilà, les grandes surfaces souvent ont fait des on y va aussi, mais les gens, ils se ressentent, peut-être qu'on va se recentrer davantage sur ce qui est local, je ne sais pas, moi en tout cas, beaucoup de gens en ont exprimé le souhait.
Donc tu...
trop de faillite.
Tu vois quelque chose qui serait quand même un demain différent d'hier.
Ah oui, je pense que tout le monde, je sais pas, tu vas interviewer d'autres personnes, on a tous le sentiment, chacun peut exprimer sur ce qu'il a fait, c'est souvent l'occasion de réfléchir sur soi, sur ce qui est important, mais en même temps, il n'y a pas de salut individuel, le sort est lié les uns aux autres, et on se dit, ce sera plus comme avant, déjà il n'y aura pas l'insouciance, l'irresponsabilité, je crois, mais quoi finalement, comment s'en sortir, sais pas. Toi aussi, peut-être, évidemment, t'es l'intervieweur, mais...
Et justement, ça m'amène à une autre question que je voulais te poser, sur toutes les... ces injonctions permanentes et les contraintes officielles, est-ce que, d'après toi, ça va générer des formes d'auto-conditionnement ? Est-ce que la réflexion, justement, rester assez alors, libre, ou ça va être un changement conditionné par...
Oui, Orwell a la novlangue, a une espèce de société du contrôle.
C'est ça.
Et moi, ce que je vois, c'est toujours ambigu. Le télétravail va se généraliser. Il y a déjà des formes de contrôle par le suivi informatique. Ça va s'introduire, y compris dans le travail. Et finalement, ça offre un boulevard à une société du contrôle.
Mmh. Et l'éducation à distance, il y a nombreux sujets comme ça. Hein.
C'est ça qui est quand même inquiétant, parce que la seule chose qui a permis au moment du confinement complet, qui n'a pas été discuté par personne, finalement, sauf peut-être dans les banlieues, il y a eu une espèce de consensus sur le fait que le numérique, c'était le lien social. Oui. Voilà. Et donc là, c'est à la fois ce qui relie et ce qui enchaîne, bien entendu, comme beaucoup de moyens quand ils font l'unanimité, voilà.
Ouais. Cette question-là de distanciation physique ou de distanciation sociale est hyper importante.
Oui, parce que on parle de distanciation sociale, c'est une distanciation sanitaire qui est physique, mais la distanciation sociale, elle est de fait aussi, puisque c'est les familles qui vont rester dans le huis clos. Et alors, moi, j'ai une petite réflexion amusante, parce que j'ai essayé, je m'étais dit, pourquoi pas le café philo essayer de passer par ces réseaux et tout. Et je trouve que le résultat n'est pas très bon, parce que d'abord, on ne peut, ou alors moi, je n'ai pas pu, les gens, ils ne sont peut-être pas équipés, on peut être que 4 ou 5 pour débattre. Et puis, de filmer quelqu'un à une bonne distance, c'est un métier, les gens le voient. Même j'ai vu la grande librairie, par exemple, pourtant ils ont dit, les gens, alors peut-être il faut les mettre à bonne distance. Il y a quelque chose d'un peu obscène, tout d'un coup on les voit, leurs trous de nez, leurs défauts, leurs yeux, comme s'ils étaient un peu déterrés à la limite. C'est tout à fait étrange. Et là, j'avais une réflexion un peu philosophique, justement, je pensais à Lévinas, la présence de l'autre par ce biais-là est en quelque sorte imposée. Alors que quand on a la présence de quelqu'un en face de soi, finalement, on peut le garder comme on veut, il y a un échange, il nous impose pas, et la voix non plus, c'est autre chose. Ce qui fait que moi, je trouve qu'il y en a ce moyen-là est bizarre, hein. Ça modifie l'altérité, il y a quelque chose d'étrange et de...
Et puis en termes d'archives,
ça m'a appris, ça m'a appris que rien ne vaut le véritable contact physique, finalement, et à la limite, ce sera un vrai plaisir de se serrer la main. Moi, j'estime que lorsque je pourrais serrer la main de quelqu'un, le reconnaître dans sa... Comme dit Lévinas, je serai sorti du confinement. On sera sorti du confinement. Voilà ce que je voulais dire. Hein?
J'ai hâte de pouvoir te serrer la main.
Voilà, ben écoute, je te... je salue tous les fidèles participants au Café Philo. Je rappelle le deuxième vendredi du mois pour ceux qui ne... Alors, il y a notre facbestre, Jacques Fat, qui évidemment tiendra courant sur la reprise. Mais pour l'instant, nous n'avons pas prévu de... Comment on appelle ça sur...
Est-ce qu'on avait un sujet d'ailleurs en suspens?
Alors, on avait la bêtise, je crois. La bêtise, c'est un petit truc qu'on avait voté lors de ce fameux repas.
D'accord.
Alors j'étais très content d'ailleurs, parce que j'avais un peu peur suite à ce repas c'était juste avant les élections. Et puis finalement, tous les gens, j'en profite pour dire, c'était peut-être la première chose qu'on aurait pu dire, que personne, évidemment, du Café Philo et des connaissances du Café Philo n'a été touché par par cette maladie. Voilà.
Eh bien, merci à toi, Christophe, en tout
cas.
Et puis,
y a pas de problème.
À bientôt.
Au revoir.
Salut.